Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis José-Louis Gibaud. Nous sommes le lundi 9 décembre 2024. Il est 19h57 et vous écoutez La Matinale, l'émission qui vous réveille, vous informe et vous provoque.
La Matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
De sujets moins sérieux.
Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Ile-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur le 93.9.
C'est un plaisir de vous retrouver pour cette première matinale de la semaine. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on prenne un moment pour parler de quelque chose qui nous touche tous, qui nous façonne tous et qui pourtant nous échappe inlassablement, le temps. Cette drôle de matière insaisissable qui semble parfois s'étirer à l'infini et d'autres fois disparaître comme du sable entre nos doigts. C'est drôle, non? Parce que quand on y réfléchit, le temps est notre seul vrai compagnon. Il est là dès le premier souffle, il nous suit dans chaque instant. Et pourtant, c'est aussi un adversaire impitoyable qui avance sans se retourner. Il y a un an, jour pour jour, j'entrais dans cet incroyable univers qu'est la radio. J'étais ce novice, fébrile mais curieux, prêt à poser ma voix là où elle trouverait un écho. Et vous, chers auditeurs Tris, vous avez été cet écho. Une famille de voix, d'ondes et d'idées connectées. Un an déjà, c'est peu et beaucoup à la fois. Une année, c'est comme une saison. Il y a des bourrasques et des éclats de soleil. Mais ce qui reste, ce sont ces instants où le temps a semblé suspendu. Un an de radio, une poignée de secondes en réalité, à l'échelle de ce que certains appelleraient l'éternité. Mais à mes yeux, c'est bien plus que ça. C'est une multitude de moments qui se sont gravés en moi, des moments de doute, d'échecs ou de succès, des moments de rire, parce que parfois, même à travers les ondes, on finit par oublier les barrières, on finit par se parler d'humain à humain, et puis surtout, des moments d'échange avec vous, cette famille invisible pourtant bien réelle. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me rends compte de l'importance de cet étrange voyage. Et tiens, en parlant de famille, vous connaissez les Borgia? Cette dynastie italienne qui a marqué la Renaissance, intrigue, complot, ambition dévorante, tout ça pourquoi? Pour défier le temps, pour laisser une trace dans l'histoire, mais à quel prix? Le prix de liens brisés, de sacrifices et de secrets. Les Borgia, c'est une leçon sur la puissance des liens humains, qui sont soit des liens familiaux, d'amitié, d'amour ou de haine, qu'ils élèvent ou qu'ils détruisent, parce qu'au fond, c'est toujours la même chose, le temps passe et nous change. Ce fil invisible qui nous lie, nous porte et parfois nous étouffe. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec vous, avec moi, avec ce micro, cette radio? Eh bien, j'ai appris que le temps ne nous appartient jamais vraiment, mais qu'on peut choisir ce qu'on en fait, qu'on peut le remplir de paroles sincères, d'histoires vibrantes ou même d'un peu de chaos à la Borgia, qu'il peut vous porter ou vous filer entre les doigts. Alors merci à vous qui m'accompagnez depuis un an ou depuis hier. C'est dans cette aventure où chaque mot compte. Et surtout, souvenez-vous, le temps n'attend personne, mais il offre toujours une chance à ceux qui osent la saisir. La matinale du 9 décembre 2024, c'est parti. J'étais presque. Et voilà, on commence le sommaire. Au programme aujourd'hui, en première partie d'émission, nous échangerons avec Bastien Viber, en charge du programme SIDA au CRISP, Île-de-France. Ce sera Guillaume qui mènera l'interview. Le Zoom sera mené par Thomas et nous recevrons le groupe Please. Enfin, Nordine et Juliette nous partageront leur biais d'humeur.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris 93.9 FM et vous écoutez toujours la matinale. Pour commencer cette émission, nous sommes avec Bastien Viber, en charge des programmes SIDA au CRISP Île-de-France. À toi, Guillaume.
Bonjour José-Louis. C'est une infection lointaine que nous aurions presque oubliée après quelques années de confinement, de tests et de vaccination contre le Covid. Le nom de ce virus semble droit venu de temps anciens, des archives, des grands cauchemars vécus par nos parents. Le 5 juin 1981, une agence américaine annonce une recrudescence anormale de cas de pneumonie dans les villes de Los Angeles, San Francisco et New York. Les décès se comptent rapidement en milliers, grimpent pour atteindre un pic à 49 000 personnes rien qu'aux États-Unis en 1995, en cause l'épidémie de sida. Depuis, les campagnes de communication, les associations, les gouvernements et la médecine semblent avoir fait des miracles. Le nombre de cas a reflué lentement, Mais le virus n'est pas encore hors d'état de nuire, loin de là. On a compté encore 5500 personnes diagnostiquées séropositives en France sur l'année 2023. Plus alarmant encore, l'état des connaissances du grand public autour du VIH sont préoccupantes, me font froid dans le dos. Non, partager un sandwich avec un ou une pote porteuse du VIH ne te fait courir aucun risque de contamination. Alors pour décortiquer ce qu'il se cache derrière cet organisme de moins de 400 nanomètres et comprendre comment on peut l'empêcher de faire tranquillement sa vie, on a invité Bastien Vibert. Bonsoir. Alors vous êtes en charge des programmes SIDA au CRIPS pour Centre Régional d'Information et de Prévention du SIDA et pour la Santé des Jeunes.
Ouais, c'est long.
Ouais.
Ça rallonge.
Mais je tenais à le dire. En Ile-de-France.
Exactement.
Alors pour démarrer, on va essayer de bien comprendre de quoi on parle. Je parlais donc de ce petit virus. Alors on parle parfois de VIH, parfois de SIDA. C'est quoi la différence entre les deux termes ?
Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Pour parler en effet d'une maladie dont on parle beaucoup moins, alors qu'en effet, vous l'avez rappelé dans votre intro qui était super. Enfin, moi j'ai trouvé super en tout cas. C'est un virus qui y a toujours 5000 contaminations par an découvertes. En fait, la différence entre le VIH et le SIDA, elle est assez simple. C'est que le VIH, c'est quand on est contaminé, c'est le virus qui entre dans le corps. Et le SIDA, c'est un stade de la maladie. Quand on ne fait rien, quand on n'est pas sous traitement, quand on ne connaît pas sa maladie, à un moment, au bout de quelques années, on va arriver à un stade, ce qu'on appelle le stade SIDA. Et ce stade-là, c'est un stade où des maladies opportunistes vont... Enfin, en gros, le VIH va affaiblir le corps, et le stade SIDA, c'est le moment où les maladies vont arriver. Donc, ça veut dire qu'en France, on peut, en France et à l'international, grâce au traitement, on n'arrive pas au stade SIDA.
D'accord. Donc, si je comprends bien, donc le VIH, c'est pas forcément embêtant en soi, c'est le fait d'arriver au stade donc du SIDA. Alors là aussi, pour bien comprendre, pour bien poser le paysage, je dirais, si mon médecin m'indique que j'ai un VIH qui a atteint le stade donc de SIDA, ça veut dire quoi très concrètement? Pour moi, au quotidien, en 2024, pour un jeune de mon âge.
Ouais. En fait, déjà, ça veut dire que vous avez été dépisté. Donc, ça veut dire que vous avez fait, vous, l'effort d'aller vous faire dépister. Donc, déjà, c'est chouette. Parce que vous avez pris soin de vous et vous avez pris soin des autres. Donc, déjà, c'est plutôt un chouette réflexe pour toutes et tous. Ensuite, ça veut dire que vous avez été dépisté, si vous êtes au stade SIDA, très tard. Aujourd'hui, et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle, il y a quelques années, on était à peu près à 3 ou 4 ans entre une contamination et une découverte. Donc ça veut dire que pendant 3 ou 4 ans, le virus, il attaquait le corps. Aujourd'hui, on est plutôt sur 2 ans, ce qui est beaucoup, mais ce qui est beaucoup moins qu'avant. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc honnêtement, en France aujourd'hui...
2 ans, juste pour bien comprendre, le moment où j'ai le virus, donc le VIH, ouais, est rentré dans mon corps.
Exactement, et d'accord, le moment où vous avez découvert. Parce que c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de symptômes. Alors moi, c'était mon époque, mais le côté Philadelphia... Ça n'existe plus aujourd'hui. Pas, en tout cas, très, 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 très peu de manière infime en France.
Ça existe... Philadelphia pour...
Philadelphia, c'était un film un peu culte qui a parlé du VIH avec des acteurs qui sont encore connus aujourd'hui, Denzel Washington, Tom Hanks, aujourd'hui, qui sont plus âgés. Mais l'idée, c'est que ça montrait un malade du VIH. Et on voyait des traces physiques de ce que ça donnait. Et c'est un film qui a marqué une génération parce que c'était un film qui montrait réellement les choses et qui n'était pas dans le pathos et qui montrait la vie d'une personne viséropositive qui voulait se défendre avant de mourir. Mais je ne spoil pas. Pardon, j'étais dans mes souvenirs sur Philadelphia.
Et donc c'est aujourd'hui, voilà, vous expliquez, on est plutôt à deux ans déjà.
Pour... Voilà, donc ça veut dire que, imaginons, moi je suis contaminé aujourd'hui au VIH. Soit j'ai une capacité à prendre soin de moi, c'est-à-dire que j'ai pas de problème d'accès aux soins, j'ai pas de problème de discrimination, et donc je vais prendre soin de moi, et ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Donc je vais sûrement faire un check de temps en temps si j'ai compris que j'avais été exposé au VIH, parce qu'encore faut-il le savoir. Et ensuite je vais faire un test de dépistage. Aujourd'hui, sur un VIH, vous n'aurez pas de symptômes pratiquement, parce que tout le monde dit oui, mais au début on a des symptômes. Oui, pour 50% des personnes, on va avoir une grosse grippe. Mais après, pendant quelques années, vous serez asymptomatique, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de symptômes. Donc il est là, la problématique du VIH, c'est que c'est un virus qui est silencieux. Donc si vous ne faites pas dépister, vous n'avez aucun moyen de savoir si vous êtes porteur de VIH. Et donc vous n'aurez aucun moyen de savoir. Donc évidemment, quand vous allez arriver au stade SIDA, c'est simple, vous serez peut-être à l'hosto, donc là, évidemment, vous saurez. Mais l'idée, c'est d'être outillé soi-même, pour savoir qu'on a été exposé et pour savoir comment réagir. Et on a les solutions.
Et il y a aussi beaucoup de mythes ou d'ignorance ouais. autour de en fait, l'espérance de vie d'une personne qui est donc diagnostiquée comme ayant le sida.
Ouais.
Aujourd'hui, l'espérance de vie, on est à combien?
Alors, dans un contexte France, ouais, ouais. parce que en fait, à l'international, malheureusement, je fais juste une parenthèse parce que ça me semble important de voir. Enfin, si vous m'autorisez.
Bien sûr.
Ça vous remercie beaucoup. En fait, il y a 40 millions de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde. Il y a 10 millions de personnes qui n'ont pas accès au traitement. Ça, alors, il y en avait beaucoup plus avant qui n'avaient pas accès au traitement, mais on est encore à un quart des personnes bah, qui sont en danger de mort. Voilà. En France, on a cette chance d'avoir accès à des traitements qui sont en plus des traitements de bonne qualité. Alors, il faut savoir que je reviens sur Philadelphia ou sur les années 80, où en effet, la prise du médicament, c'était toutes les 4 heures. C'était une galère sans nom, il y avait des effets secondaires terribles. Là aujourd'hui, on a... Alors je ne dis pas que c'est simple d'être séropos, je préfère le dire quand même, parce que des fois on me dit « ouais, c'est facile ». Ouais, bien sûr. Mais scientifiquement, aujourd'hui, c'est 1 ou 2 gélules par jour maximum, et l'espérance de vie est à peu près identique à celle d'une personne ne vivant pas avec le VIH.
Voilà,
c'est ça la réalité aujourd'hui en France. Le VIH, c'est chronicisé, et pour beaucoup, c'est devenu une maladie chronique, avec en effet, toujours... de très forte discrimination.
Et alors, une grande ignorance, je voyais en préparant cette interview, c'est, alors elles sont nombreuses, mais alors, il y en a une qui m'a frappé, c'est 30% des 15-24 ans répondent à l'enquête IFOP SIDAction que
ouais.
Donc le VIH pourrait se transmettre en embrassant, par exemple, une personne séropositive. Alors, je vous devance, Bastien Vibert, évidemment, c'est faux. D'ailleurs, il ne se transmet pas en se baignant dans la même piscine ou en mangeant dans la même assiette ou en partageant un savon. Mais alors, comment se transmet-il ce virus?
Alors, c'est une stat intéressante, j'aimerais juste réagir dessus, parce que déjà, je pense que chez les plus de 30 ans, c'est à peu près les mêmes datas. Donc, on pointe toujours du doigt les jeunes en disant « bande d'irresponsables », etc. Déjà, les plus âgés sont pareils. Et en plus... je ne sais pas si vous en conviennent ou pas, mais il y a quand même une loi qui oblige à 3 séances d'éducation à la sexualité. Donc c'est un peu facile de pointer du doigt des gens tout en ne donnant pas les outils. Mais voilà, bon, ça c'est une petite aparté. J'ai oublié votre question.
Et alors,
c'est pas bien.
Comment est-ce qu'il
oui,
se transmet ces virus?
Excusez-moi. Par voie sexuelle, par voie sanguine et de la mère à l'enfant, quand on est l'enfant à naître, entre guillemets. Très majoritairement, il se transmet par voie sexuelle. Pour l'exemple, par exemple, d'embrasser quelqu'un, il n'y a pas de virus dans la salive, en fait. Donc, voilà, c'est scientifiquement comme ça, ça n'existe pas.
Tout simplement. Et, ouais. Et alors, dans quelle situation est-ce que je dois concrètement, dans mon quotidien, c'est à quel moment que je vais me dire, bon, ben là, peut-être j'ai eu un rapport sexuel à risque. Voilà, quand est-ce que je me dis, ben, je vais aller faire un test, je vais aller essayer de comprendre si je suis à risque ou pas.
En fait, c'est quand vous allez avoir un rapport sexuel non protégé avec votre partenaire ou vos partenaires. Quand on dit non protégé, ça veut dire que c'est pas seulement sans préservatif, parce qu'on peut tout à fait coucher sans préservatif sans risquer le VIH. Ça peut être, par exemple, évidemment, coucher avec une personne dont on connaît le statut sérologique. Si la personne est séronègue, on ne risque pas la transmission du VIH. Mais si la personne est séropositive, donc vit avec le VIH, on ne risque pas non plus la transmission du VIH si la personne a des traitements qui fonctionnent. C'est-à-dire qu'on sait depuis 2008, depuis 16 ans, qu'une personne vivant avec le VIH sous traitement ne transmet pas le VIH, tout simplement parce que le traitement pris par la personne vivant avec le VIH va bloquer la transmission du virus. C'est tout, c'est très simple, ça fait 16 ans qu'on le sait. Alors, vous verrez un peu partout, c'est U égale U, I égale I, indétectable égale intransmissible, etc. En fait, le message, il est très simple, c'est que le traitement empêche la transmission du virus. Donc, il y avait cette partie-là.
Et parenthèse, d'ailleurs, je voyais ouais. également dans le cas, d'une, par exemple, d'une femme enceinte qui ouais. serait séropositive, elle a moins de 1% de chance
Exactement.
De transmettre le virus au bébé.
En fait, le traitement aujourd'hui, c'était avant pour contrôler la maladie chez la personne. Maintenant, c'est devenu un outil de prévention. Et c'est ça notre grande révolution. Il y a plein de pathologies qui sont très complexes, certains cancers, etc. Enfin voilà, passons. Mais sur le VIH, il y a eu des progrès immenses. Et ça, c'est très cool. Et juste pour venir sur la question de la prévention, imaginons un rapport qui peut être exposant au VIH. Ça peut être vous êtes sous PrEP, donc vous êtes sous une pilule.
Sous PrEP.
En fait, la PrEP, c'est une C'est un traitement antirétroviral, donc un traitement du VIH, mais qui est pris par une personne qui ne vit pas avec le VIH, donc une personne séronégative. Et quand vous prenez cette pilule tous les jours, par exemple, en fait, vous êtes protégé du VIH. C'est un peu comme le palu. Le palu, vous voyez, vous prenez un truc avant, bah là, c'est pareil. Avant, vous êtes séronégatif, donc ne vivez pas avec le VIH, il y a une pilule qui protège du VIH.
Et voilà. Là aussi, pour être très concret, à quel moment est-ce que vous conseiller de faire appel à ces par exemple, cette méthode.
En fait, moi je dis souvent c'est comme un menu au restaurant. C'est-à-dire que quand vous allez au restaurant, les plats uniques c'est très sympa, mais à un moment vous avez envie de changer des fois ou pas, ça dépend. Mais ça c'est vous qui décidez. C'est-à-dire que moi je suis personne. Bah, déjà, moi j'ai une prévention qui me regarde moi, qui est pas forcément celle des personnes qui sont dans le studio. Je sais pas, j'en sais rien. Mais moi je conseille juste de parler déjà. C'est-à-dire que après vous allez avoir peut-être des vous avez peut-être utilisé un préservatif, vous avez peut-être utilisé rien du tout, vous avez peut-être utilisé des dépistages, vous avez peut-être utilisé une PrEP. Peu importe en fait, l'idée c'est comme un menu restaurant, c'est-à-dire qu'on ouvre le menu et vous choisissez. Et par contre on ne vous cache pas une partie du menu, c'est très désagréable ça. Mais par contre, mais par contre ce menu, bah, vous lisez en entier, vous prenez ce qui vous plaît. Le lundi, le mardi, le mercredi, etc. etc. Là c'est pareil, la PrEP, tout le monde disait oui, à un moment, alors si les auditeurs et auditrices vont checker la PrEP, ils et elles vont voir qu'il y a beaucoup de trucs qui étaient oui, c'est un peu pour les multipartenaires, pour les gays, etc., etc. Ça, c'était la version d'il y a quelques années. La PrEP, c'est pour tout le monde. Il y a toujours une bonne raison de prendre la PrEP. La seule bonne raison, c'est la sienne. et concrètement, c'est gratuit, c'est ouvert chez tous les médecins et bah, c'est assez simple. Voilà. Enfin, moi, je trouve ça assez simple.
Merci, nous arrivons à la fin de cette première partie. Nous allons faire une pause musicale engagée avant de continuer notre interview. En effet, on s'écoute La Java du Séropo de Jacques Martineau et Philippe Miller, qui est la bande originale du film Jeanne et le garçon, qui est un témoignage poignant et réaliste sur l'expérience vécue par les personnes séropositives.
Quand le docteur m'a dit que j'étais séropo, que cette maladie, je l'avais dans ma peau, dans mon sang, dans mes veines, cette putain de gangrène, je pensais je suis mort. D'abord j'y ai pas cru, je me suis fait des mensonges, je me suis drogué, j'ai bu, je voulais passer l'éponge, j'ai passé de ma vie cette voix qui me dit, demain tu seras mort. J'ai détesté tout le monde, c'était la faute à tous, je les trouvais immondes, les gens ça me rendait fou, ils me regardaient crever au lieu de me consoler, dans leurs yeux j'étais mort. Enfin je me suis repris, je suis pas vraiment malade, et puis j'ai réfléchi, je me raconte toute salade, je vais crever c'est sûr, mais du moment que ça dure, je suis pas encore mort.
Mais tu ne mourras pas, je t'aime.
L'amour, ça n'a jamais sauvé personne.
Moi, j'y crois.
Pas moi.
T'es dur, tais-toi.
C'est pas moi, c'est ma maladie. Eh ben, embrasse-moi.
Est-ce que ça fait longtemps que t'es séropositif?
Ça fait au moins 6 ans, je suis pas affirmatif. Je me suis beaucoup drogué, je faisais pas attention. Je me suis contaminé avec une injection. C'est pas une question, il faut pas la poser, y'a pas d'expiation, y'a pas de fatalité. Mais si un coupable, c'est pas le pauvre diable qui un jour m'a donné, ça sera un contaminé. C'est la faute à tous ceux qui ont pas voulu m'aider, ces gens de qui les yeux disaient tu peux crever, y'a pas de place pour toi dans notre société, tu n'es qu'un sale drogué. C'est la faute à Pasqua, c'est la faute à Cresson, c'est la faute à l'État, c'est la faute aux prisons, faut pas vivre dans un rêve, faut pas se faire d'illusion, tu sais quand un tox rêve, ça fait pas sensation. Quand tu drogues, tu te caches, tu veux pas qu'on le sache parce que t'as peur des flics et de tous leurs indices, tu vis traqué ta peur, tu fais n'importe quoi, tu commets plein d'erreurs, tu meurs sans qu'on le voit. Moi pendant des années je voyais plus personne, je restais chez moi caché et j'avais peur qu'on sonne. Je n'avais plus d'amis, il m'était plus permis de vivre comme un homme. Et puis j'en suis sorti et je croyais renaître, retrouver une vraie vie, la joie, l'amour, la fête. Mais j'aurais pas le temps de profiter de tout ça, car je sais maintenant que je mourrais du sida.
La Java du Séropo, morceau écrit par Jacques Martineau et Philippe Miller, bande originale.
La matinale
du film
de 19h.
Jeanne et le garçon. C'est toujours la matinale et nous sommes toujours avec Bastien Vibert en charge du programme SIDA au CRISP Île-de-France. Je te redonne le micro, Guilhem.
Alors justement, hors micro, Bastien Vibert nous expliquait que la PrEP, est, en fait, vous pouvez la demander, c'est sur ordonnance auprès de votre généraliste. C'est une ordonnance qui est valable de 3 à 6 mois. Vous pouvez la renouveler en retournant chez votre généraliste à l'issue de ces 3 à 6 mois. Je souhaitais rentrer plus en détail maintenant sur la question justement des méthodes de dépistage. Quelles sont les méthodes actuellement qui nous permettent de dépister après un rapport, par exemple, à risque?
Ouais. Alors, il y a plein de méthodes et ça fait pas mal. Je vous le dis parce que moi, les piqûres, j'aime pas ça. En fait, vous avez, notamment pour les moins de 26 ans, le fait d'aller faire un test dans un labo. Donc, là, vous venez sur Paris, donc il y a plein de labos partout et en banlieue également. C'est gratuit, c'est sans ordonnance et il n'y a pas d'avance de frais. Donc vous arrivez, vous poussez la porte, vous dites voilà, je voudrais faire un test VIH s'il vous plaît. La personne va vous dire ok, vous allez vous asseoir, vous attendez 5 minutes, vous allez faire un test, vous avez votre résultat le soir. Ça s'appelle labo sans ordo ou VIH test. Vous avez la possibilité d'aller en Cégide. Alors Cégide c'est un nom barbare mais qui veut dire en gros centre de dépistage. Et ce qui est plutôt chouette, c'est que vous allez faire un check un peu global. Vous n'allez pas faire que le VIH, vous allez sûrement faire un check un peu vaccination, etc. Donc ça c'est plutôt chouette. Pareil, c'est gratuit. Des fois avec rendez-vous, des fois sans rendez-vous, il faut aller voir le site de Sida Info Service. Vous avez toutes les infos et les arrêts de bus aussi. Vous avez l'autotest. L'autotest, vous achetez en pharmacie, c'est pas gratuit. Certaines assos en eau comme nous, mais voilà, c'est souvent en pharmacie. C'est entre 10 et 25 euros et vous faites vos tests chez vous. Nous, on conseille notamment pour les personnes qui ont l'habitude de faire un test de dépistage et qui veulent faire ça en routine, parce qu'en effet, il y a des gens qui ont besoin de le faire plus souvent que d'autres. C'est pas grave de le faire plus souvent, mais c'est juste que c'est plus facile de le faire chez soi. Et il y a le TROD, donc c'est le dépistage rapide avec une goutte de sang au bout du doigt. Et on a la résultat en une demi-heure et on fait ça avec une asso comme Aide ou HF Prévention.
Donc cette dernière méthode de dépistage, donc ça c'est en laboratoire ou c'est en association vous dites ?
En fait, souvent on se déplace avec un petit camion pour aller au plus près des personnes. Donc c'est labo, Cégide. Autotest acheté en pharmacie ou quand il y a des opérations de Aide ou d'autres assos, allez les voir parce que au-delà du test, ça permet aussi de parler et des fois ça fait du bien de parler de santé sexuelle, ça fait du bien de parler de soi et ça fait du bien de parler aussi à des gens qui sont comme nous et avec qui on n'a pas peur de dire qui on est, dont on n'a pas peur d'assumer et ça fait du bien. Voilà, c'est un espace safe et inclusif.
Ça, on relève bien ce point. Justement, ces tests, est-ce qu'on peut les faire, donc je peux les faire dans les heures qui ont suivi le rapport ou ce serait pas pertinent? Est-ce qu'il y a un moment
Vous avez tout à fait raison, ça c'est hyper important. Alors, c'est entre 6 semaines et 3 mois après un rapport exposant au VIH. Par contre, on dit toujours que nous on refuse jamais quelqu'un qui veut aller faire un test. Déjà parce que la personne, elle fait l'effort de venir, donc merci à elle. Et en plus, c'est souvent pas son premier rapport. Donc autant checker, et ce qui n'empêchera pas de checker 6 semaines plus tard. Notamment en labo, c'est 6 semaines, via un TROD, c'est 3 mois. Mais vraiment, moi ce que je conseille en tout cas, et à mon niveau, hein, je veux dire, j'ai pas la vérité universelle. Parce qu'en plus, ça fait pas mal, et ça fait du bien de checker, et ça fait du bien de voir que pousser la porte, c'est pas si compliqué que ça au final.
Alors, dans le cas où je suis diagnostiqué comme séropositif, donc là, c'est-à-dire que je suis porteur du fameux virus du VIH, donc j'ai aujourd'hui accès à des traitements. Vous avez commencé à l'esquisser, mais comment est-ce que ces traitements ont évolué depuis les années 80 je rappelle un période où la première épidémie de VIH avait été annoncée.
Déjà, quand vous êtes diagnostiqué, moi, je conseille toujours de ne pas rester seul. C'est bête parce que c'est facile à dire comme ça, là autour d'une table, à la radio, mais il y a plein d'assos qui sont là pour les personnes, plein d'assos d'auto-support, ACT UP, Aide, les séropotes, sur Paris notamment et proche banlieue. Donc ne pas rester seul. Après, sur la partie traitement, l'avantage c'est que c'est très protocolisé, donc on est passé d'une trentaine de gélules à prendre toutes les 4 heures à 2 gélules par jour, voire une gélule par jour. Le traitement est aujourd'hui injectable pour les personnes qu'on a envie, c'est-à-dire c'est une injection dans le bras, dans les fesses. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a, scientifiquement en tout cas, c'est une révolution en 40 ans. Mais vraiment, c'est, autant il y a des pathologies, pas autant, mais là c'est vraiment une révolution scientifique sur la gestion pour une personne avec le VIH. Sociétalement, on n'y est pas. Mais scientifiquement, c'est incroyable ce qui s'est passé.
Et alors financièrement, est-ce que les personnes... Alors je vais me concentrer sur la France, hein, mais le VIH, on le rappelle, ça touche le monde entier. Hélas, est-ce qu'il y a des murs financiers encore pour les plus défavorisés en France aujourd'hui?
Alors, non et oui. Non, pour l'instant. Oui, peut-être demain. Aujourd'hui, on a, notamment pour les personnes qui sont les... Enfin, malheureusement, l'aide médicale d'État, puisqu'aujourd'hui, ça veut dire que c'est des personnes qui n'ont pas la CMU, qui n'ont pas la sécurité sociale. On risque d'avoir, parce que c'est toujours les politiques veulent toujours restreindre l'accès aux soins pour des raisons politiques, politiciennes, peu importe. Ça, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai pas à juger. Le seul fait que je vais juger, c'est qu'il a été prouvé par A plus B, notamment par l'INSERM, par la NRS et par des organismes d'État, que quand on restreignait l'accès aux soins des personnes les plus démunies, les plus précarisées, pardon. C'était un risque d'exposition au VIH. Donc, si on restreint l'accès aux soins, on renforce le VIH. Or, aujourd'hui, l'État français s'est engagé sur l'objectif 2030, qui vise qu'en 2030, on ait zéro contamination du VIH. Donc, tout ce qui restreint l'accès aux droits, l'accès aux soins, l'accès à la santé, est un facteur d'exposition. Donc, il reste à choisir le camp.
Et justement, donc cet objectif de 2030, alors ça fait bizarre dit comme ça, mais en fait, Bastien Vibert, quand est-ce que vous aurez plus de travail? Qu'est-ce qui nous manque pour arriver à zéro?
Et alors, pour tout vous dire, dans notre raison d'être, entre guillemets, dans les séminaires qu'on fait, les brainstorming, les machins, etc., on a dit en effet qu'on serait dissous quand il n'y aura plus de VIH. Et c'est un horizon qui est atteignable. Mais c'est un peu comme toutes les maladies, c'est-à-dire qu'on dit toujours qu'on va y arriver, on va y arriver, mais il faut mettre en place les choses pour y arriver. Donc moi, j'espère très sincèrement qu'on y arrivera, parce qu'on a les outils pour y arriver. Autant il y a des trucs, c'est très marketing, voilà, on va faire la une de Libé, la une du Monde, etc. Non, là, on a les outils pour y arriver, en tout cas en France. Donc j'espère qu'en 2030, on sera peut-être pas à zéro, mais on arrivera d'une part à ce que les personnes vivant avec le VIH soient traitées comme des citoyens à part entière, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et que les personnes qui ne vivent pas avec le VIH aient accès à toute la prévention qu'ils souhaitent, sans moralisme et sans être jugés.
Et pour atteindre alors justement ce stade 2030 0 cas, je vois dans les chiffres, donc sur les 5 dernières années, hors Covid, c'est un chiffre sur la séropositivité qui a stagné. On est autour de environ 5500 cas. Qu'est-ce qui manque pour casser cette stagnation, pour réduire encore ce chiffre?
Je pense que vous l'avez dit dans votre intro, c'est déjà en parler. Et vraiment merci à vous d'en reparler, parce qu'aujourd'hui, il faut faire connaître les outils. On les a, maintenant il faut qu'ils soient pris en main. C'est-à-dire qu'on a une offre en santé sexuelle qui est vraiment super bonne. Le dépistage est gratuit, les présos internes et externes, dits masculins et féminins, sont gratuits dans les pharmacies. La PrEP est gratuite et accessible chez son médecin généraliste. Le traitement pour les personnes vivant avec le VIH, il est pris en charge par la Sécu et il est de très bonne qualité. Le traitement d'urgence contre le VIH à prendre dans les 24 heures, il est gratuit dans tous les hôpitaux. Donc l'offre, elle est super. Maintenant, comme dans n'importe quelle vie, il y a une offre et une demande. Il faut permettre aux personnes de pouvoir exprimer leurs demandes sans peur d'être jugées. C'est-à-dire que quand on est une personne gay, par exemple, on doit pouvoir dire à son médecin toutes ses problématiques et ne pas être jugé. Quand on est une personne racisée, on doit pouvoir avoir accès aux soins. Donc l'idée, c'est aujourd'hui comment on permet aux personnes d'exprimer leurs demandes de prévention dans un cadre sécurisé, inclusif, safe. Et c'est ça, honnêtement, le prochain combat, il est là, parce que l'offre, elle est, je dis pas qu'elle est à son max, mais elle est quand même bien fichue, quoi.
Et justement, ça semble se jouer, vous l'esquissez là aussi, dans les cabinets même de chez son médecin généraliste.
Ouais.
Vous, par exemple, au CRIPS, est-ce que vous poussez des idées? Comment est-ce qu'on fait pour que ce soit safe d'aller chez son médecin et parler de séropositivité?
Ce qu'on essaye de faire, avec plein d'autres, entre guillemets, c'est... En fait, c'est de former les personnes et en fait de former les médecins, les futurs médecins, les infirmiers, les infirmières, tous les professionnels de santé. Et en fait, en leur faisant comprendre, et non pas en leur imposant une vérité, parce que ça marche pas, mais en les outillant pour leur dire, mais au final, demander par exemple son identité ou son orientation sexuelle à quelqu'un pour ensuite enclencher les recours de santé, c'est pas si compliqué que ça au final, mais il faut juste poser les questions. Et oui, mais c'est intime, etc. Oui, mais se mettre à poil devant son médecin, c'est tout aussi intime, voire plus. Donc c'est pour ça qu'on essaye de former et les pros de santé, et les futurs pros, d'informer le grand public grâce à vous, très simplement, et merci encore, et de permettre aux personnes d'être outillées, de pouvoir choisir leur prévention, parce que c'est quand même le plus important.
Merci Bastien. Malheureusement, l'heure de la fin de cette entrevue est arrivée. On vous le rappelle, faites-vous dépister, informez-vous, ne restez pas isolé, prenez-vous en charge et battez-vous malgré tout.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
C'est maintenant au tour de Nordine de nous partager son billet d'humeur.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Je m'appelle Nordine, étudiant en philosophie et futur journaliste. Bienvenue sur la chronique Technophilo. Je vous propose de vous présenter les actus technologiques du moment et d'utiliser la philosophie contemporaine pour analyser, comprendre, critiquer ces innovations, le tout sur fond de musique techno. Si vous aimez la philosophie, la technologie et la techno, vous êtes au bon endroit. Avez-vous entendu parler d'Optimus, le nouveau robot lancé par Tesla ? En octobre 2024, il y a un mois, Elon Musk a présenté sa toute dernière création et le résultat est assez impressionnant. Optimus est un humanoïde qui ressemble fortement au robot du film iRobot avec Will Smith. Il possède un buste, des jambes, des bras, des mains et une tête, bref un corps de forme humaine, et il est capable de tenir debout, de marcher, de s'accroupir, de tourner la tête et même de saisir des objets avec beaucoup de précision. Plus encore, ce robot peut tenir une conversation. Quand on lui parle, il répond avec sa voix synthétique et il vous pose même des questions en retour. Sur une vidéo de promotion lancée par Tesla, on peut par exemple voir quelqu'un demander au robot s'il connaît Elon Musk et celui-ci lui répond en anglais « Oui, bien sûr, c'est un mec génial. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de lui ?» Mais quel est donc le but de ce robot qui devrait coûter environ 30 000 euros ? Accomplir tout un tas de tâches domestiques. Optimus est capable de servir des boissons, de préparer des repas, d'aller chercher le courrier, de déplacer et ranger des objets ou encore de discutailler si jamais vous vous ennuyez. Bref, Optimus est à la fois une femme de ménage 3.0 et un ami virtuel. Mais au-delà de cette prouesse technique, pourquoi l'homme ressent-il le besoin de confier ses tâches domestiques à une machine ? Pourquoi laisser un robot s'occuper de notre maison, de notre nourriture, de nos tâches quotidiennes ? Plus encore, d'où nous vient cette envie de discuter avec un objet, une machine, un robot ? Autour de nous, il y a tant de personnes à rencontrer. Mais pourquoi donc l'homme du 21e siècle a-t-il décidé de créer une machine robotique avec qui parler ? Le philosophe français Georges Simondon nous offre un bout de réponse à ces questions. Voici ce qu'il écrivait en 1958 dans son livre « Du mode d'existence des objets techniques ». L'homme veut dominer, donc il suscite la machine androïde. Il abdique alors devant elle et lui délègue son humanité. Il cherche à créer la machine à vivre, la machine à vouloir, pour rester derrière elle sans angoisse, libéré de tout sentiment de faiblesse et triomphant à travers ce qu'il a créé. Ainsi, l'homme a besoin de puissance, de sentir qu'il contrôle son environnement, qu'il est fort, mais bien des fois la nature le renvoie à sa propre faiblesse et à ses limites. La solution de l'homme moderne pour dominer le monde et la vie, malgré sa faiblesse, c'est donc de créer un robot qui soit capable de faire ce qu'il est lui-même incapable de faire, de maîtriser ce qu'il se sent incapable de maîtriser, d'exécuter des tâches qu'il ne peut exécuter. Le robot est un substitut de l'homme, et l'homme, par substitution, vit sa puissance à travers lui. Optimus, ce n'est pas seulement un robot domestique, c'est une solution à nos problèmes existentiels, à notre paresse, à notre solitude. Tu ne te sens pas capable de bien gérer ta maison ? Optimus le fera pour toi. Tu aimerais rencontrer des gens ? Tu es timide ? Optimus sera ton ami. Comme nous l'explique Simondon, le robot Tesla est donc un symbole de notre volonté de triompher, malgré nos faiblesses, à travers les machines puissantes que nous créons. Ainsi, faibles que nous sommes, laissons les machines être fortes à notre place, dit l'homme moderne.
Merci Nordine, rendez-vous dans le multiverse donc. Sans transition, Slenderman de Clara Chimera.
Slenderman.
Tu te demandes si les Martiens ont atterri sur la Terre ou si Donald Trump a encore sauvé un chat, tu es au bon endroit, les actualités du jour qu'il ne fallait pas manquer.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Le président Bachar al-Assad a fui la Syrie, chassé par une offensive spectaculaire des rebelles emmenés par le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham. Un tournant de l'histoire qui met fin à un demi-siècle de règne sans partage du clan al-Assad. Bachar al-Assad se trouve avec sa famille à Moscou où ils ont obtenu l'asile selon les agences de presse russes. Le premier ministre syrien Mohamed Razi al-Jalali s'est dit prêt à travailler avec les nouveaux maîtres du pays afin d'entamer une procédure de passation de pouvoir. De son côté, le ministère de l'Intérieur français a fait savoir au monde que la France travaille sur une suspension des dossiers d'asile en cours provenant de Syrie. Le procès du réalisateur Christophe Rougia s'est ouvert ce lundi au tribunal correctionnel de Paris. Il est accusé d'avoir agressé sexuellement l'actrice Adèle Haenel lorsqu'elle avait entre 12 et 14 ans. Après une courte trêve consacrée à la réouverture de la cathédrale Notre-Dame, le président français Emmanuel Macron reprend du service et reprend ses consultations afin de nommer un nouveau ou une nouvelle première ministre, 5 jours après le vote de censure contre Michel Barnier. Le président réunit depuis ce matin les principaux chefs de parti afin de trouver son ou sa prochaine première ministre. Et est exclu d'ores et déjà le Rassemblement national de la course. Nouveau record mondial, 2024 sera la première année au-delà de la barre des 1,5 degré de réchauffement par rapport à la période pré-industrielle. Bravo! Ce niveau dépasse ainsi la limite à long terme la plus ambitieuse fixée par l'accord de Paris qui visait, pour rappel, une limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici à 2100. Et retour à Paris pour finir à l'Opéra. La semaine dernière, les deux premières représentations du ballet Paquita à l'Opéra Bastille n'ont pas pu avoir lieu. Désormais, la grogne des opéras touche les danseurs du ballet Play, dont la représentation prévue au Palais Garnier lundi soir à 20h est annulée. En cause, la rémunération des danseurs et danseuses qui ne prendraient en compte que 6 heures de travail quand ce temps tournerait plutôt autour de 30 heures selon le syndicat CGT.
Merci Guilhem. Passons au zoom de la matinale.
Bonjour.
Le zoom dans la matinale de 19h.
Bonjour, bienvenue au groupe Please sur le plateau de la matinale ce soir sur Radio Campus Paris. Please est un groupe de rock assez pop et c'est aussi un trio d'amis qui se connaissent depuis le collège et qui sont avec nous ce soir donc pour nous parler de leur dernier EP Flashlight qui est sorti le 4 octobre dernier chez Good Manners Records. On reste dans le registre de la politesse. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de table et vous vous présenter chacun, nous dire peut-être ce que vous faites dans ce groupe ?
Salut, alors moi c'est Aristide, je suis guitariste.
Moi c'est Louis, je suis batteur.
Et moi c'est Dylan, je suis chanteur.
Eh ben bonjour à tous encore, merci d'être là. Est-ce que vous pourriez nous raconter peut-être la genèse de Please, un peu l'origine ou l'histoire, et en fait peut-être nous raconter comment du collège vous en êtes arrivé à présenter ce soir votre dernier EP sur ces antennes.
Waouh, tout ça en combien de temps ?
Vous avez 35 secondes.
Ok. Donc nous, on s'est rencontrés en fait au collège. On s'est rencontrés sur les bancs du collège quand on était en cinquième. On faisait pas trop de musique et en fait, on s'est retrouvés un peu à créer une amitié autour de la musique, autour de disques qu'on écoutait quand on était jeune, des vieux disques des années 60 et 70, alors que tout le monde écoutait de la tectonique ou je sais pas quoi d'autre. Et en fait, on s'est retrouvés autour de ça. Il se trouve qu'il y avait une salle qui était mise à disposition des élèves le midi pour répéter et préparer un concert de fin d'année. Et on s'est dit qu'on voulait le faire, et ça s'appelait les jeunes talents du lycée Buffon, enfin du collège Buffon. On l'a fait, on a grave kiffé l'expérience, on a joué 3 reprises, Téléphone, Jimi Hendrix, les Rolling Stones, et après on l'a refait l'année d'après, puis refait l'année d'après, puis ensuite en fait on a grandi, on a fait des études, on a été dégoûté par les études pour plein de raisons personnelles et collectives, et à la fin on s'est dit qu'est-ce qu'on veut faire de nos vies, ben on veut faire de la musique, et voilà. Putain,
35 secondes,
je l'ai fait.
Magnifique. Et donc maintenant, vous faites ça à temps plein. Comment est-ce que vous organisez un peu votre vie musicale et artistique ?
Bah, il y a une petite rotation entre les concerts, le studio, l'écriture. Ça prend beaucoup plus de temps qu'on ne le pense, qu'en fait, quand on a un groupe de musique en 2024, ça implique aussi de gérer des réseaux sociaux, de faire son merchandising, de faire tout ça. Et quand tu disais qu'on a sorti notre EP sur Good Manners Records, en fait, il est devant toi, Good Manners Records. Donc,
il y a voilà, Good Manners et Records.
D'accord, donc ça fait des semaines, des journées bien remplies, pas de soucis.
Ok, est-ce qu'il y a une anecdote, quelque chose en particulier que vous aimeriez partager avec nous, que ce soit que ça ait eu lieu pendant une tournée ou autre, quelque chose qui ressorte un petit peu?
Bah, en fait, quand on porte notre matos, on pousse souvent des cris de petits vieux, puisqu'on a, une fois pour un clip, on a fait du rodéo sur un taureau de 900 kilos, et tous les trois on est sortis cassés en 1000 morceaux, donc voilà.
On porte encore les séquelles. On n'est pas venu avec les radios qui attestent de nos blessures, mais souvent on se déplace avec pour faire comprendre quelle est la réalité du métier.
Voilà. Bah c'est, moi j'admire votre dévouement à la cause musicale, merci à ça. J'ai vu que vous aviez aussi quelques clips, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de l'univers visuel qui entoure toute votre musique?
Bah, l'univers visuel, il est très proche, très fidèle à qui on est, parce qu'on souvent ce qui ressort, c'est beaucoup d'humour, d'autodérision. En fait, toutes nos vannes qui sortent toute la journée, on a envie de les mettre à l'image et casser un peu le côté poussiéreux parfois qu'on a du groupe de rock. Donc voilà, on se met souvent en scène dans nos clips tous les trois, dans le rôle d'un groupe de rock un peu malmené par la vie, par les événements. Le dernier en date, on se fait kidnapper par un monstre qui veut qu'on joue pour lui devant notre voiture. Enfin, on vous laisse regarder, mais c'est le clip de Flashlight. Voilà, on vous laisse découvrir.
Ok, merci. Toujours un peu sur l'histoire du groupe en général. Moi, j'aimerais bien savoir s'il y a un peu une sensibilité artistique en dehors de la musique qui peut-être vous inspirer. Vous pouvez aussi parler de vos inspirations musicales. Mais est-ce qu'il y a dans le champ, qu'il soit littéraire ou même de la peinture, des choses qui vous touchent, qui vous parlent particulièrement ?
Je pense là-dessus, on est parfois assez... Enfin, alors, non, le groupe, au départ, il avait un nom qui s'appelait Coruscant Capsule, parce que c'était une planète de Star Wars. Donc, je pense que la genèse, vraiment, si on doit parler d'autres arts, ça serait les films de science-fiction et surtout Star Wars. On se réunit surtout... Enfin, voilà, on est très différents tous les trois dans nos goûts. On partage des choses, mais on a aussi beaucoup d'appétences différentes. Mais la musique, en revanche, on se retrouve sur plein de choses en musique. C'est pour ça qu'on est un groupe de musique.
Ok, magnifique. On peut parler maintenant un peu, si vous voulez, un peu plus en détail de votre dernier EP, donc Flashlight. Déjà, de quoi il parle ?
L'EP, il parle de plein de choses. Il parle beaucoup de nous, ce qu'on vit collectivement. Bah, par exemple, le titre éponyme de cette EP qui s'appelle donc Flashlight, il parle d'un épisode un peu traumatique qu'on a vécu en concert, où en fait tout était réuni pour faire un super concert. Le lieu était incroyable, il faisait chaud, il faisait beau, c'était en été dans le sud de la France. On n'aimera pas le festival. Et on était prêt à tout casser, vraiment. On est monté sur scène. On s'est pris un Larsen d'entrée sur la première note. On s'est regardé, on a fait « Waouh, ça va être chaud !» Et ensuite, tout le concert, on s'est rendu compte que le public n'était pas du tout là pour écouter de la musique, pas du tout là pour la découvrir. Ils étaient tous sous des substances qu'on n'aura pas ici, mais que les étudiants connaissent bien. Et ouais, ça rigole de ouf.
Ça rigole dans la salle, ouais.
Et en fait, on a passé 40 minutes à se battre, à être un peu otage d'un public, parce que quand on vient, c'est pour jouer 40 minutes, c'est pas 35, c'est pas 45, il faut jouer. Et en fait, on est sorti de scène et on s'est dit il faut en faire quelque chose de ce moment, et on a écrit un morceau qui a été ensuite mis en image dans le clip qu'Aristide a réalisé, d'être un peu otage de ce public, et on a personnifié ce public avec ce monstre qui nous traîne un peu partout dans la boue et qui nous force à jouer. Et c'est de dire que en fait la musique c'est fait pour dire ce qu'on a à dire, mais devant les bonnes personnes, parce que parfois ça peut se retourner contre nous. Et voilà, c'est un peu des fois on dit artiste thérapie, je pense que là c'était un peu le cas. Il fallait qu'on sorte un peu ce qu'on avait vécu d'un peu trauma, et on en a fait un morceau. Alors c'est un épisode traumatique, c'est très très léger, hein, j'en conviens. Et après d'autres thèmes qui ressortent, c'est je crois que j'ai beaucoup parlé, si t'as beaucoup de questions tu peux me...
Vas-y, t'inquiète, hein, c'est intéressant.
Y a un titre qui s'appelle Never Really Wanna Change, qui parle un petit peu de l'injonction en fait au changement, à être meilleur, à être toujours un peu plus ci, un peu plus ça. Et puis en fait parfois nous dans tout ce qu'on vit, dans nos vies, dans nos choix qu'on a fait pendant notre adolescence, notre jeune âge adulte, eh ben on a dû se cantonner à nos convictions et être un peu persuadé de ce qu'on faisait. Et voilà, on a écrit un morceau qui s'appelle Never Really Wanna Change.
Je crois que c'est celui qu'on écoutera juste après.
Génial.
Pas du tout, autant pour moi, ça en sera un autre.
Pas du tout.
On sort du studio, c'est un
c'est un scandale. Est-ce que il y a quelque chose qui du coup dans cette EP de différent par rapport à ce que vous avez pu faire avant? Vous voyez-vous une évolution ou vous avez l'impression de vous inscrire dans une même continuité?
Carrément en fait, même si on a toujours les roots, l'ADN du groupe qui est très voilà, on est tous les trois avec nos instruments très organiques, on a essayé sur cette EP d'incorporer plus de sonorités cheloues. On a acheté du matos pour que ça sonne pas comme notre EP précédent, et puis un peu pour que ça sonne comme à la fois avant et demain. Enfin voilà, on sait pas si on a tenu le pari, mais ouais, voilà, on a fait beaucoup d'efforts sur le son. On s'est entouré aussi d'un mec qui s'appelle Max Baby, qui est très très fort et qu'on embrasse, et qui nous a aidé aussi sur ce point-là de notre musique, à aller vraiment chercher, aller plus loin dans le son, et pour qu'il soit à la fois plus profond et aussi plus gros. Et je pense que on a bien réussi. Avec
en tout cas, on est très content.
Ouais.
Génial. Et Max Baby, c'est vrai que j'avais vu son nom et ça me posait un peu la question dans cet album, qui fait quoi? Comment est-ce que vous organisez? Comment est-ce que ça se passe de créer un EP comme ça?
En fait, alors nous, on a un groupe, il y a un batteur, un guitariste, un chanteur, mais en vrai, on est un peu tous multi-instrumentistes. Donc tout le monde joue un peu de tout et on aime bien un peu déconstruire le processus du groupe qui rentre en studio. Quand on voit les Arctic Monkeys qui rentrent en studio dans les années 2000, c'est vraiment il y a un producteur qui branche leur guitare, qui appuie sur play et tout est enregistré. Et nous on est plus un groupe parce que on se retrouve à faire de la musique ensemble et qu'on veut l'incarner ensemble, mais quand on la produit, quand on la crée, on est en fait plus trois artistes en train de créer. Donc en fait parfois Harry prend la basse, moi je prends la guitare, Louis c'est le seul à jouer vraiment mieux de la batterie que les autres et de loin, mais c'est un peu tout mélangé et on est un peu dans une phase de création où on met tout en commun et donc après c'est la traditionnelle chaîne de valeur, j'ai envie de dire, de la création musicale. Mais d'abord on écrit, on fait des mélodies, on fait des paroles, et une fois qu'on a les structures et les morceaux qu'on aime bien, et ben là on les arrange, on enregistre partie par partie, et ensuite on fignole, on fait les petites percules, les petits trucs, les machins, on fait des voix, des trucs, etc. Et ensuite on fait mixer ça, on fait masteriser ça, on le presse sur un objet noir tout fin et rond qu'on appelle vinyle, ce qu'on n'a pas fait d'ailleurs ce qu'on n'a jamais fait d'ailleurs, mais théoriquement c'est comme ça que ça se passe.
Ce sera bientôt la fin de cette petite interview. Est-ce que vous voulez juste nous dire quand est-ce qu'on vous retrouve? Vous avez des dates prévues, quelque chose?
Bah, alors, il s'avère qu'on fait la première partie de Justice à Bercy dans 10 jours.
Oh, bravo.
Voilà, je suis bien fort dans le micro parce qu'on est très content de, de cette nouvelle qu'on a appris il y a pas longtemps. Et sinon, là, on va un peu se terrer tous les trois pour écrire la suite et préparer peut-être un album.
Merci beaucoup, please. On arrive à la fin de ce Zoom. Donc, si je retiens bien, il faut ne pas sécher ses cours de musique au lycée, kiffer la SF, être prêt à partager publiquement sa thérapie de groupe et être pote avec Justice.
C'est ça, c'est la recette.
Wow. Juste avoir du talent.
Ça peut aider. Justement, on va vous écouter sur notre troisième pause musicale avec une track de vous qui s'appelle A Little Sun in Cold Water. C'est A Little Sun in Cold Water, petite balade pop rock du groupe Please.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et notre dernière chronique de Juliette.
Salut! Vous allez bien? Vous allez bien?
Bah oui, ça va.
Ça va.
Non, ça va pas. Ça va.
Bon, allez, je la refais. Comment ça va?
Ça va!
Non, je ne demande pas si ça va pour créer du lien avec vous, même si j'avoue, j'aimerais beaucoup parce que je sais que Radio Campus, c'est le tremplin de ma future carrière à l'international. Yes. Et que vous, insérez ici les personnes de la radio que je trouve talentueuses. Je peux pas, il y en a trop, j'ai que 3 minutes. En tout cas, vous êtes les futurs Charline Van Hunecker, Guillaume Meurice ou encore Léa Salamé.
Oh, merci.
Alors, non, pas pour la dernière, pas merci.
Non, pardon,
bon, de toute façon, je ne peux pas créer du lien avec vous parce que je sais que ce sera un lien toxique. Bah, si, regardez, je vous demande si ça va et vous me dites même pas. Et toi, Juliette, comment ça va?
Désolée.
Bah, voilà, en tout cas, je ne vais pas vous raconter pourquoi ça ne va pas. Parce que vous n'aviez qu'à me demander avant. Si c'était venu de vous, si vous aviez eu la gentillesse de me demander comment j'allais, j'aurais pu vous dire pourquoi ça ne va pas. Bon, ça va être un peu long, une chronique pleine de silence. Mais vous aussi, demandez-moi pourquoi ça va pas, merde, putain, il faut tout vous dire. Parlez près du micro, réglez le son de votre casque, habillez-vous, il y a des enfants. Ok, vas-y Thomas, tu peux me demander pourquoi ça va pas?
Bah, pourquoi ça va pas?
Bah, ça va pas parce que habiter à Paris, c'est compliqué. Enfin, habiter à Paris. Ce que je veux dire, c'est que habiter à Paris sans appartement, c'est compliqué. Ah. Bon, oui, j'ai conscience que j'ouvre une porte entre-ouverte. Non, c'est pas ça. Non, c'est j'enfonce la porte qui est déjà ouverte. Non, c'est quoi l'expression? Bon, en tout cas, le principe, c'est qu'il y a une porte qui n'est pas fermée, donc elle est ouverte en fait, et tu dois l'ouvrir. Sauf que c'est déjà fait, donc t'as pas grand chose à faire finalement. Et c'est ça qu'elle veut dire, cette expression. Et pour avoir une porte déjà ouverte à ouvrir, bah, il faut avoir une porte. Et ça, c'est pas facile. Parce que en fait, se balader avec une porte toute la journée, c'est vraiment pas pratique. Surtout si t'es en vélib et que tu portes ta porte sur ton dos. Déjà que les relations automobile-vélo, c'est un peu compliqué. Donc en fait, le mieux que quand t'as une porte, c'est d'avoir un appartement qui va avec. Et c'est là. Je voulais en venir. C'est le serpent qui se mord la queue. Celle-là, je l'ai, hein, vous avez vu. Non, parce qu'un serpent qui se mord la queue, bah, c'est assez simple parce que ça fait des cercles et tout le monde sait faire des cercles. Par exemple, cette chronique est un immense cercle vicieux dans lequel je tourbillonne sans cesse sans réussir à me dépêtrer. Ah, aidez-moi, je n'arrive pas à sortir du cercle de la chronique catastrophe. Je mords ma propre queue. Waouh, je suis désolée.
Ça m'a dégagé.
Non, mais en fait, quand je dis que j'habite à Paris, en fait, c'est plus que je cherche à habiter à Paris. Et en ce moment, je fais un des trucs les plus fun du monde. Ah ouais, c'est des policiers? Mais non, mais pas du tout, qui a dit ça? C'est déshabillé devant des enfants? Ouah, désolé, mais moi, je peux pas continuer la chronique dans ces conditions. Bon, bah, désempoter des carottes alors. Oh, sujet, personne ne fait pousser des carottes à Paris. Putain, mais en plus d'être déviant, vous êtes ignorant. Et en plus, ça existe même pas, désempoter. Non, c'est pas ça. Je fais des recherches d'appartements. Puis je les visite aussi, il suffit pas que de chercher. Alors, c'est un enfer, je ne vous raconte pas. Si, je vous raconte. Sauf si ça vous intéresse pas, parce que je peux partir aussi. Hein. Moi, je trouve que ton intro, elle était super. Oh, merci. Ah, si. Ça fait plaisir, un peu de reconnaissance. Et bien, justement, parfois, il faut savoir s'arrêter au bon moment. Oui, j'ai conscience que je n'ai rien raconté dans cette chronique, mais c'est aussi parfois ça, la vie. Arrêter de courir derrière la rentabilité et la productivité. Être OK avec sa propre médiocrité. Accepter de ne pas jouer au jeu assassin du capitalisme. Bernard Arnault, tu m'auras pas. Non, j'irai pas à Courchevel cet hiver. Tu ne me forceras pas à y aller. Même si j'adore la luge et les fondus. Les appareils à fondus, il y en a 25 à 25 euros chez Nature et Découverte. Cette chronique n'est pas sponsorisée par Nature et Découverte, hein, surtout que je l'ai volée là-bas. Donc, merde, c'est peut-être une info que j'aurais peut-être pas dû divulguer. Bref, en fait, cette chronique, c'est ma manière à moi de militer. Hein. Rien à voir avec le fait que j'avais pas envie de bosser. Hein. Donc, la prochaine fois, je vous raconterai ma dernière visite d'appart et en attendant, je vais essayer de trouver une technique pour planter des carottes à Paris parce que ça se marie super bien avec la fondue. Merci.
Merci. Merci Juliette. Voilà, vous savez, elle ne va pas bien. Mais en tout cas, c'est déjà l'heure de nous quitter. Merci à toi, chers auditeurs, Riz, d'avoir été avec nous pour cette matinale. Merci à nos invités de ce soir, Bastien Vibert, en charge des programmes SIDA au CRISP Île-de-France et au groupe Please. Merci à nos super bénévoles avec nous ce soir, Guillaume pour l'interview et le flash info, Thomas pour le Zoom, Nordine et Juliette pour les chroniques, Joey à la réalisation, Alice et Maïwen pour la coordination et moi-même pour l'animation. N'oubliez pas que ce soit le début ou la fin de votre journée, souriez car le soleil se lève forcément quelque part dans le monde. Vous écoutiez la matinale de Radio Campus Paris 93.9. À très vite sur les ondes.